Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Oui, ben, bonjour. Ben, aujourd'hui, je serai qu'avec Brigitte, Alain étant en train de chasser la palombe.
Ouais, il est perché, là. Il est perché
dans les arbres.
Voilà, exactement.
Donc, on va faire sans lui aujourd'hui. Donc, bienvenue à notre émission. Donc, Brigitte, nous allons parler du congrès national qui a eu lieu au mois de septembre dans le Nord. Tu peux nous dire un petit mot sur ce qui s'est passé, les moments forts de ce congrès?
Oui, bien sûr. Donc, nous nous sommes rendus avec le président, donc Alain Castan, et Bernard Pichenot, qui est secrétaire de notre association des maires ruraux de Dordogne, à Eppe Sauvage, dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Et ça a été un grand moment, parce que c'est la première fois qu'on reçoit quand même... on a reçu le Premier ministre. Et là, je veux dire qu'on a fait fort quand même, parce que c'est un truc, tu vois, où normalement, on ne représente pas grand-chose, nous, les maires ruraux. Mais qu'un Premier ministre fasse un déplacement, on a trouvé ça quand même assez, assez bien. Hein, voilà.
Oui, c'est une reconnaissance du travail des maires.
Et puis, reconnaissance avec un petit R, parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin de nous quand même. Hein. On s'est rendu utile pour la suite des Gilets jaunes et toutes les doléances qu'on a pu recueillir. Reconnaissance avec un petit R, je dis, parce que ça sent quand même que c'est pas... Moi, je suis... Tu sais, je suis pas très enclin quand même. J'ai un peu de réserve là-dessus. Alors, il y a des bons points, parce que ça fait des années qu'on attend une certaine reconnaissance du gouvernement. Elle vient petit à petit, mais elle vient forcée. Elle n'est pas non plus spontanée. C'est pas... Mais enfin, quand même, ils sont venus. Donc, je te dis, le Premier ministre et trois autres ministres se sont déplacés. Donc, on peut dire quand même que là, sur le coup, c'était réussi. Et ça a été quand même... on a beaucoup de réserves, mais on a quand même une certaine satisfaction d'être arrivé à ça.
Donc c'est une avancée pour toi de la reconnaissance du travail des maires ruraux en France.
À un moment, il faut bien qu'ils reconnaissent quand même qu'on a plus de 25% de la population qui vit dans le rural et qu'on ne va pas nous oublier. De plus, on a quand même de plus en plus de néo-ruraux qui viennent chez nous, des gens de la ville qui veulent une qualité de vie, qui se rendent dans nos communes. Et d'ailleurs, ça pose aussi des problèmes de voisinage, soit avec des vaches, soit avec des grenouilles, soit avec des clochers. Voilà, et c'est de cela dont on parle. Et il ne faut pas que notre campagne soit abandonnée. Alors, on a eu quand même un rapport qui a été fait donc par le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, qui a prôné une politique en faveur de la ruralité, qui doit s'inscrire dans la durée. Bon, il a bien dit qu'il fallait pas qu'on crée d'opposition entre les territoires ruraux et urbains. C'est ce qui se passait jusqu'à maintenant, ce qu'il tend toujours à faire, parce que, par exemple, la politique de l'urbanisme, c'est essayer de priver les communes rurales de terrains de constructibles et puis de les mettre, par contre, on n'empêche pas
en urbain,
de construire des cités, de construire des zones pavillonnaires, alors que nous, M. Perrault avait donné cet exemple-là en disant que certaines villes dans le Pays Basque où il y a 200, 300 maisons ou des immeubles de 300, 400 habitants, ont la possibilité d'être construites. Par contre, un petit maire qui demande à faire construire une maison au milieu de nulle part, ça va lui être opposé parce que même s'il est en zone U. Donc il y a quand même des problèmes et nous, en tant que maire, on le sent bien ça. On est en train de nous spolier sur nos terrains. Ça veut dire que demain, qu'est-ce qu'on va être des zones mises sous globe? Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est nous qui fabriquons les paysages. On est la première destination en Europe touristique, mais parce qu'on a des paysages entretenus. Si demain nos campagnes sont désertées, on aura des friches partout ou des bois partout. Donc voilà. Et donc, bon, c'était là l'opposition entre ruraux et urbains. Donc j'en reviens au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre a amené un rapport fondateur, c'est-à-dire il a amené un dossier de presse le 20 septembre avec des propositions qui ont été composées par des élus et des parlementaires experts de la ruralité. Alors, quand j'entends ça, ça me fait un peu peur, mais c'est vrai. Alors, il y avait un sénateur de la Nièvre, un sénateur honoraire maire de Saint-Flour, il y avait un député d'Indre-et-Loire, un maire de Voray, vice-président de l'Association des maires de France, et aussi le maire de Fercé-sur-Sapte, qui est la MRF, donc des maires ruraux de France. Donc quand même, on est un petit peu attaché à ce rapport fondateur. Donc ils nous ont sorti une série de mesures qui sont en train de passer actuellement au Sénat et qui doivent être après acceptées par l'Assemblée nationale. Alors, ils ont fait, ils ont fait un travail collectif qui a associé des acteurs de territoire et qui a fait appel à l'ensemble des forces vives des ruralités, de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs économiques et associatifs. Donc je pense que ça part d'un bon principe.
On peut partir d'un bon principe, mais vous, en tant que maire, vous êtes toujours confronté à des réalités. Il y a les paroles et il y a les actes. Les services publics, entre autres, est-ce qu'il en a parlé un petit peu à votre congrès?
Oui, il a parlé surtout de la DGFiP. Alors DGFiP, c'est Direction Générale des Finances Publiques. Bon, c'est vrai qu'on avait eu un projet qui passait dans notre département et qui nous disait que toute notre trésorerie allait fermer en gardant 4 ou 5 pôles vraiment départementales sur lesquels vraiment il y aurait des grosses structures. On a interrogé le ministre à cette occasion et il nous a dit, texto, qu'aucune trésorerie ne fermerait sans l'accord du maire de la commune. Ça me rappelle un peu le truc des écoles, tu sais, on ne doit jamais fermer une école sans l'avis du maire. Sauf que si tu enlèves l'instituteur ou si tu enlèves les gars des trésors publics ou les personnes qui travaillent dans les trésoreries, forcément, à un moment, tu seras bien obligé et de fermer la trésorerie et de fermer l'école. Et là, c'est la responsabilité du maire, tu vois, le maire est responsable de tout.
Où il y a la trésorerie. Mais je pense que ça peut être utilisé par les élus pour faire pression. Je vois que il y avait une convention qui avait été signée entre la Poste, l'État et l'Association des maires sur la question des fermetures de bureaux de poste. Si un maire s'opposait, le bureau de poste ne pouvait pas fermer. Donc je vois sur la commune de Saint-Léon, ça a été le cas. Ça peut être intéressant d'avoir cette démarche, effectivement. Mais c'est le maire de la commune où il y a la trésorerie.
Là, tu vois, ça me fait un peu doucement rire, parce que mon prédécesseur, c'est-à-dire que moi je suis à mon deuxième mandat, a fermé la poste contre son avis, mais la poste a été fermée chez nous. Donc maintenant, on a un point poste au restaurant. Alors bon, vous allez me dire, c'est bien déjà d'avoir ça, mais on se contente déjà toujours de peu. Finalement, on va arriver, plus rien à voir. Donc je suis un peu sceptique.
Donc après, on verra si les maires vont des cantons, parce qu'en général, les trésoreries étaient sur les cantons, se prononcent aussi.
Toujours l'espoir. Nous, on a, par exemple, sur Montpont, on a la trésorerie. Bon, il y a l'hôpital de Vauclair, il y a beaucoup de choses. Mais on parle de regrouper tout ce qui est trésorerie pour les établissements hospitaliers sur Périgueux. C'est vrai qu'on peut les faire aussi bien en ligne, puisqu'on dématérialise tout. C'est aussi la crainte, quoi. Et puis, bon, on nous parle aussi de ces fameuses maisons France Service qui pourraient accueillir aussi un représentant du Trésor public qui pourrait venir dans nos communes de temps en temps de temps en temps. Je dis de temps en temps parce que j'ai eu l'occasion d'aller sur Perpignan et j'avais vu le projet qui existait sur les Pyrénées-Orientales. Et j'ai vu que les petites communes, les plus petites communes, ils auraient la visite d'un inspecteur ou un représentant de leur trésorerie une demi-journée par an. Ça te parle? Demi-journée par an, quand tu as besoin de voir quelqu'un, tu es content. Oui, je veux dire, voilà. Alors, si c'est ça qu'on nous vend,
C'est plus du service public. Donc, à part ça, sur ce congrès au niveau national, parce qu'on va parler un petit peu de l'Assemblée générale qui a eu lieu à Saint-Léon.
Oui. À part ça, c'est vrai que là, le Premier ministre, il a fait fort quand même, parce qu'il nous a donné à Moulinet 173 propositions. je veux dire, c'est quand même pas rien. Mmh. Donc à un moment, on peut penser que ça va donner quelque chose. Sauf que, vous allez dire que je suis toujours en train de râler, mais c'est un peu c'est ce qui me porte. Hein. Je suis toujours une râleuse. Le jour où je râlerai plus, je crois que je pourrai rentrer soigner mes rosiers. Voilà. Et à un moment donné, on a des choses qui partent d'un bon sentiment. Mais il y a certaines revendications qu'on porte, nous, depuis des décennies, et on sent qu'il y a beaucoup de frilosité. C'est-à-dire qu'on te parle, par exemple, un sujet des indemnités. On te parle des indemnités de mer.
On en reparlera tout à l'heure.
Si tu veux. Bon, alors il y a un représentant, un président d'association des maires de France, des villes de France, qui disait qu'on a entendu des déclarations d'amour, mais désormais on attend des preuves d'amour. Ça parle.
Oui.
Voilà. On te parle aussi de t'aider à payer ton assurance en tant qu'élu. Nous, maires et adjoints, on a des assurances. On prend des assurances personnelles en cas de problème, si quelqu'un porte plainte, ou on a l'assurance de la mairie, mais on a des assurances personnelles. On te propose de payer ta police d'assurance. Oui. Moi, c'est pas ce que j'attends. Je veux pas qu'ils payent 80 euros par an. J'en ai rien à faire. Ce que je voudrais, c'est que l'État prenne la défense des maires. C'est-à-dire que les préfets, dès qu'un maire est en problème, soient... De toute façon, on est présumé innocent en France, sauf pour les maires. Dès qu'il y a quelque chose, ils sont présumés coupables. Donc moi, ce que j'attends de l'État, ce que j'attends des préfectures, c'est qu'on nous aide dès qu'un maire est mis en cause, qu'on essaye de le défendre. Bien sûr, si jamais vraiment il a fait quelque chose, on ne va pas le défendre. Ça, je suis droite dans mes bottes. Moi, je respecte la loi, je ne vais pas au-delà. Voilà. Mais d'abord, quand c'est un maire, il est forcément coupable. J'ai l'exemple du collègue là, qui a été arrêté par les gendarmes à 53 km/h, qui a payé son amende. Hein, c'est un président des maires ruraux d'un autre département. Il a donc été arrêté. Il a payé son PV. Il a reçu un PV. Il est roulé à 53 km/h au lieu de 50. Il est en tort, point barre. Je reviens pas là-dessus. C'est normal. Il paye son PV. Il reçoit une lettre du tribunal en lui disant « Monsieur, vous n'avez pas payé votre PV ». Alors, il fournit les documents en disant qu'il a payé son PV, que tout est OK. Et malgré ça, il va quand même au tribunal puisqu'il est convoqué. Et le jour de la séance, le juge qui est devant lui, lui dit « Monsieur, vous n'auriez pas dû rouler à 53 km/h, c'est un délit, etc. » Alors bon, il en convient, mais il est comme tout le monde. Hein. Et le juge lui a dit « Vous êtes un maire, vous devriez montrer l'exemple. » Et au lieu d'en rester là, il a condamné à 200 euros d'amende et à un mois de suspension de permis supplémentaire. Ça, si vous appelez ça « défendre les maires », voilà, parce qu'il a su qu'il était maire. Oui. Au lieu de payer ça, tout un chacun, quand il est conducteur, il n'est pas ni maire, ni trésorier, ni gendarme, ni il est un peuple français, quelqu'un.
C'est un citoyen.
Un citoyen, il a droit à ça. Eh bien, un juge a jugé bon parce que c'est un maire, donc d'office, il est coupable. Et c'est ça que je voudrais qu'on défende et qu'on essaye de...
On y reviendra tout à l'heure sur la deuxième partie de notre débat, sur pourquoi les maires ne se représentent pas.
Ah, ben ça en fait partie, mais ça fait aussi partie du... on parlait de la défense des maires, voilà, c'est ça.
Bon, sur l'Assemblée Générale qui a eu lieu en Dordogne.
Oui.
Donc là, il y a eu aussi pas mal de monde qui est venu. Quel est ton sentiment? Est-ce que tu as eu des réponses plus précises par rapport... Parce qu'il y a le conseiller de M. Macron sur la ruralité qui était là.
Oui, bien sûr. On en a profité. Jérôme Perra qui est venu. Bon, ce que je voulais dire, c'est quand même qu'on a senti... Nous qui sommes allés à Eupes Sauvage, on avait quand même... un certain optimisme qui s'est dégagé de ça. On s'est dit, tiens, ça y est, on est sur la bonne pente. Quand on a eu le congrès départemental, je suis un peu descendue de mon estrade, moi. J'ai senti que ceux qui n'étaient pas avec nous se sont dit, mais attends, c'est encore un truc qu'on nous promet depuis des décennies et qu'on ne voit pas venir. Donc, nous, on, pour l'instant, on ne croit à rien. C'est cet effet-là. Alors, toi, tu ne l'as peut-être pas ressenti parce que tu n'étais pas avec nous dans le Nord. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une certaine... ils attendent en embuscade.
Hein? Non, mais comme tu disais, on a vu des paroles d'amour. Maintenant, on attend les preuves ou les actes d'amour par rapport à nos communes. Sinon, sur l'Assemblée générale de Saint-Léon, globalement
Globalement, on a fait passer ce qui était les motions du Congrès national. Là, on avait des motions concernant donc la DDFIP, hein, c'était ça. Et puis après, il y a eu, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait. Tu te rappelles, toi, de ce qui avait été soulevé?
Moi, je me rappelle sur les trésoreries. Bon, ouais. Il y a eu, mais on en reviendra tout à l'heure sur la discussion pour pourquoi les maires ne se représentent pas. C'était surtout pour... un gros sentiment de défendre les services publics. Moi, j'ai ressenti dans
la
nécessité. Quand le président dit « on ne ferme pas une école, mais on peut fermer des classes
ouais, ». Mais ça, on joue sur les mots.
C'est en plein de choses comme ça. Ils sont en train de tromper la population. Donc, on a ce sentiment qu'aujourd'hui... moi, j'ai vu tout à l'heure dans la presse l'inauguration de du tronçon Libourne-Bergerac.
Ouais.
Et monsieur le délégué des transports, là, le secrétaire d'État.
Ouais. De transport, c'est pas Elisabeth Borne,
non, c'est le secrétaire qui était député dans la Haute-Vienne, ouais. Et qui est venu et qui s'est approprié. Presque la construction de la ligne alors que l'État n'y a pas mis un centime, ça fait un peu le scandale puisque c'est le département qui n'a pas les compétences qui a mis l'argent.
D'ailleurs, voilà, il y a encore une chose que je ne comprends pas. On a pris des compétences au niveau communautaire, on a des compétences et la compétence transport n'est pas justement pour les EPCI. Elle est à la région, simplement. Mmh. Et pourtant, on fait payer des EPCI. Comment vont réagir nos percepteurs au moment de nous faire payer ? Enfin, pas moi, parce que je ne suis pas sur cette ligne-là. Mais comment va réagir notre trésorier quand il va falloir payer la note ? Je me pose la question, quand même. Si ce n'est pas de notre compétence, comment est-ce que les EPCI, ou de leur compétence, comment les EPCI peuvent payer quelque chose dont ils n'ont pas la compétence ? C'est une question que je me pose.
Ok, on va reprendre dans deux minutes après
une coupure.
Une petite coupure.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un style. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, mais trop loin de Paris. Le cadet de leurs soucis, on est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
C'est une très belle chanson qui situe bien le cadre de la bataille des maires ruraux pour ne pas être les oubliés. Donc on va continuer ce débat sur le problème des maires qui ne se représentent pas. Donc toi, Brigitte, a priori, tu repars.
Oui, tout à fait.
Pourquoi tu repars ?
Alors je repars parce que d'abord, le mandat que je mène m'apporte beaucoup de satisfaction. Même si y a beaucoup de problèmes aussi, je trouve que c'est un beau mandat. J'aime bien représenter ma commune, la défendre et représenter les citoyens. Et puis être aussi au milieu de mes concitoyens, de pouvoir défendre la ruralité, de pouvoir défendre la commune, tout ça j'aime beaucoup. Et je me dis aussi qu'on a acquis plein de choses au niveau de la communauté, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est les communautés de communes qui ont pris la main, même si la communauté de communes reste un outil pour les communes, elles ont tellement de compétences que les maires sont dessaisis. Et on a acquis dans ce mandat, parce que ça a été un mandat charnière très difficile, on a acquis plein de choses, ou on a perdu plein de choses, mais on a défendu des aspects de la ruralité au niveau de la communauté de communes. Et je me dis que, vous savez, la politique, c'est un panier de crabes. Hein. Et dans les paniers de crabes, des fois, il y a un homard. Quand je me dis que ce qui est acquis doit être vraiment marqué, gravé dans le marbre. Ce qu'on a acquis, nous, en ce dernier mandat, si des nouveaux arrivent demain, on peut leur faire gober ce qu'on veut, même s'il y a eu des délibérations, des choses de prise. Je ne crois pas... voilà, il faut que ce soit vraiment confirmé, que ça soit vraiment gravé dans le marbre, ce que je disais.
Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de revoir les indemnités donc dans les propositions de M. Macron. Pour être clair vis-à-vis de nos auditeurs, tu es maire d'une ville de
520 habitants.
520 habitants. Et tu as ton indemnité de combien ?
Mon indemnité de 1 000 euros. Donc. Alors, j'ai 1 000 euros parce que je suis au-dessus de 500. Les collègues qui sont en dessous de 500, qui ont moins de 500 habitants, ils touchent 560 euros par mois. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est insuffisant.
Et puis, c'est vrai que c'est insuffisant, mais pour bien comprendre, donc, tu ne travailles pas, tu fais ton temps...
Non, je ne travaille pas. Plus.
Tu passes combien de temps tes fonctions de maire sur le terrain, sur les réunions
Je passe en mairie les heures d'ouverture où la mairie est ouverte, c'est-à-dire les 5 demi-journées, 5 demi-après-midi, plus toutes les après-midi, donc, et 2 matinées au bureau avec les employés, tout ça, pour avoir. Puis pour recevoir les gens, les concitoyens, et répondre aux problèmes qui se posent. C'est vrai que je fais partie de beaucoup de choses aussi. Alors, je vais dire un petit mot sur la parité, même si elle n'est pas excellente, et c'est ce que la proportionnelle des femmes parmi, justement, les vice-présidences de communautés, c'est inexistant. Enfin, je veux dire, partout où on va. J'ai été au SDE il n'y a pas longtemps. Les femmes, il n'y en a pas trop non plus. Tu vas dans n'importe quel syndicat de rivière ou n'importe où, tu n'as pas de femmes, hein, ou très peu. Tu as beaucoup d'hommes. La parité, on en parle. Mais alors par contre, quand moi, je me suis présentée à mon mandat de maire et que j'ai été élue, j'ai été sollicitée par des collègues qui ont les pieds dans le centre de gestion, l'UDM, l'Union des maires, enfin, voilà. pour représenter les femmes, puisqu'il n'y en avait pas tant que ça. Et donc, ça m'a ouvert des portes. Donc, en plus de mon mandat de maire, je fais d'autres choses, attention, qui ne sont pas rémunérées. Je tiens à le préciser quand même, parce que je ne voudrais pas que les auditeurs pensent qu'en plus de mes 1000 euros... C'est le Pérou. Mais je fais beaucoup de choses qui aussi sont très utiles à mon mandat, qui permet aussi de toucher à plein de choses et qui sont forcément très intéressantes.
C'est pour ça qu'effectivement, on ne voit pas beaucoup de salariés maires. Parce que
c'est assez compliqué.
Alors,
les seuls qui pourraient, en plus de ça, quand tu es issu du secteur privé, c'est compliqué. Parce qu'il faut mener de front les deux, et puis voilà. Quand tu es du régime public, peut-être c'est un peu plus aisé, parce qu'il y a un peu plus de facilité.
Quelques facilités, mais
voilà.
Pas...
C'est pas non plus le Pérou, hein, je dis pas ça. Et ce que je veux dire, c'est que tu peux mettre ta carrière entre parenthèses. Tu peux demander à être des disponibilités, c'est plus accepté dans le public que dans le privé. Les boîtes privées, elles ont besoin de quelqu'un
à temps complet.
Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il est vrai que, moi je vois, on est 15 au conseil municipal, ceux qui sont toujours mis à contribution, c'est ceux qui sont à la retraite. Parce que forcément, c'est comme partout, hein, les préfectures, les communautés de communes, les mairies, elles travaillent la journée, elles ne travaillent pas la nuit. Hein, donc pendant que tu es au boulot...
Par rapport à nos auditeurs, donc toi tu touches 1000 euros. Tu as combien d'adjoints ?
J'ai 4 adjoints.
Et ils touchent combien chacun ?
Alors, premier et deuxième adjoint touchent chacun 280 euros.
Non, mais c'est pour ça que c'est important que les gens sachent que les...
Alors, justement, j'ai une anecdote là-dessus. Mon premier adjoint qui donne beaucoup de son temps me dit des fois quand il en a marre, écoute, j'en ai fait pour 280 euros. Mmh. Voilà. Alors, je dis ça, c'est sur le ton de la plaisanterie. Et je dis que j'en ai trois, j'ai quatre adjoints. Le troisième et le quatrième, j'avais besoin d'un quatrième pour qu'il s'occupe des pistes des FCI, qu'il s'occupe du SDIS, c'est-à-dire des pompiers, des choses qui l'intéressent vraiment. Et de l'autre, c'était aussi compliqué. Donc, je leur ai demandé s'ils voulaient bien être adjoints tous les deux et partager la même l'indemnité, c'est-à-dire 280 divisé par deux. Donc,
il y en a qui
on s'en récupère euros chacun.
Non, mais il faut que ce soit clair pour nos auditeurs. Donc, il faut savoir aussi que les conseillers municipaux, eux, ne touchent rien.
C'est une charge pour la commune, hein, parce que c'est des indemnités. Bon, on a quand même un versement de l'État. Moi, je pense que le dernier, ça me vient comme ça, je crois que c'est 3 000 euros qui viennent en compensation des indemnités. Sauf que, c'est très peu, quoi. Alors maintenant, on nous dit qu'on peut augmenter nos indemnités. Alors,
je voulais qu'on en parle un petit peu. Donc, dans les propositions faites par Macron, donc les mairies auraient la possibilité, dans un cadre raisonnable, de pouvoir augmenter les indemnités des élus.
Ouais, tout à fait. Il aurait cette possibilité. Alors, à un moment, il devait y avoir compensation de l'État, mais déjà, l'État ne compense pas la totalité de ce qu'on touche actuellement. Mais il devait y avoir compensation, et puis il s'avère qu'il n'y aura pas compensation. C'est-à-dire que c'est à la charge des communes. Et il est certain que si vous voulez augmenter une indemnité, alors je pense plutôt aux collègues qui sont en dessous de 1000 euros, parce que maintenant, quand vous faites 4 pleins, et puis que c'est vrai que le département est grand, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de choses, on ne fait pas non plus que du bénévolat, on veut bien être volontaire, mais à un moment, voilà.
Et puis, pas de sa poche.
Quand on paye quelqu'un, c'est une reconnaissance. Hein, faut pas dire, moi je ne suis pas de celle qui dit je ne prendrai pas mon indemnité. Ça, c'est. Je trouve que quand on fait son boulot, on la mérite. Et voilà, moi, j'ai pas honte et je la prendrai, en tous les cas.
Oui, non, mais c'est pas... Donc, ça voudrait dire que si demain, en supposant que tu voulais passer à 500 euros de plus, peut-être pour tes adjoints, un petit peu plus...
Alors, figure-toi que, normalement, j'ai vu, là, pour 2020, la population risque de passer sous les 500. C'est-à-dire, je vais redégringoler à 650 euros. Et là, je dis pas que je demanderai pas à augmenter un petit peu. Parce qu'entre 650 et 1000, on pourrait peut-être...
Une sacrée perte.
Voilà, exactement.
Ce qu'il faut savoir, donc, pour bien expliquer à la population, c'est que ça sera pris sur le budget de la commune.
Bien sûr, tout à fait.
Donc, ce n'est pas des aides de l'État.
Non, c'est rien.
C'est donc un peu moins de services publics, un peu moins de routes, un peu moins de...
Il va falloir la prendre quelque part.
Peut-être un petit peu plus d'impôts pour payer les indemnités.
Il ne faut pas le dire, ça, parce que ça va être mal vu.
Non, mais ça peut être une réalité.
Oui, donc. Mais bon, ça reste à la marge. Je pense que les, ils vont pas faire la culbute, hein, les collègues. Hein, quand vous avez un budget de mairie rurale, il faut rester raisonnable. Donc,
non, mais je pense que voilà. c'est quand même des contraintes et nationalement, bien ça sûr. Représente quand même des sommes importantes.
Ouais, tout à fait.
Donc sur les collègues qui ne se représentent pas, là, moi j'en connais beaucoup. Donc c'est souvent par rapport à pas mal de tracasseries administratives, des difficultés. Le fait de qu'aujourd'hui les élus ne sont moins reconnus que...
Ah ben oui, les conseils municipaux, et c'est la réflexion de mon conseil municipal à moi, c'est de dire on est une chambre d'enregistrement. Donc à un moment, voilà, ils le prennent très mal. Avant, on était décisionnaires, on le reste encore sur certaines choses, mais je marque le pas, moi, en leur disant que, bien sûr, ils sont une chambre d'enregistrement, mais qu'ils apportent le débat, et avec eux, on peut défendre l'intérêt de la commune. Hein. Que si je suis toute seule, je suis mal, quoi. Donc, j'ai besoin de mon conseil municipal. Mais eux ne le ressentent pas comme ça. Alors, c'est vrai qu'ils vont rendre aussi, c'est une nouvelle, j'ai vu aussi sur les propositions là, rendre obligatoire les bureaux des maires toutes les semaines de façon à ce que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la communauté. Alors dans notre communauté de communes, ça a lieu chez nous toutes les semaines, les maires et les vice-présidents de la communauté se réunissent, donc on est très au fait de ce qui se passe, mais et puis rendre obligatoire aussi la diffusion des conseils communautaires et tout ça aux conseillers municipaux. Et je trouve que ça, c'est bien, mais moi, je le fais déjà. C'est-à-dire que tout ce qui est issu de la communauté de communes, tout ce qui est compte-rendu de bureau, c'est transmis aux conseillers. Il faut qu'ils puissent suivre aussi ce qui se passe à la communauté.
Oui, parce que des grosses explications, c'est que les conseillers municipaux ne sont pas assez impliqués dans le voilà. travail parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus se
présenter ? Alors, il y a aussi le risque pénal. Le risque pénal, parce que il y a beaucoup de maires qui vont devant les tribunaux. On en parle peu, mais c'est vrai que c'est un problème. Puis le maire est responsable de tout. Donc aussi, c'est un gros problème.
Bon, ben on va s'arrêter là. On va continuer à la prochaine émission avec Alain sur cette question-là.
On en rajoutera une couche la prochaine fois.
Mais je pense que c'est important, effectivement, que les gens se rendent compte du travail des élus et se bagarrent pour participer à ces élections. On vous remercie tous de votre écoute et puis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.